Voici, chers amis de l'histoire, une nouvelle aventure de la Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort. La Société vous offre maintenant la possibilité de connaître des tranches d'histoire de nos quartiers, et le tout sous forme de balado que vous pourrez écouter à votre rythme sur notre page Facebook Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort. Découvrez ici votre balado. Pourquoi la rue Urteau? Pourquoi on l'a nommée la rue Urteau à Villemort? C'est que Marie-Zéphirine Napoléon Urteau va enseigner durant 2 ans au petit séminaire de Montréal et est vicaire dans plusieurs paroisses de Montréal et il fut curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours depuis 1917, au moment de la dénomination de cette voie de communication dans cette paroisse. Donc, la date de désignation, le 23 mai 1922, la rue devient la rue Urteau. Et c'était anciennement la rue Orchard. Et tant qu'à parler de la rue Urteau, parce que lui avait été ordonné prêtre par Mgr Édouard Fabre le 22 décembre 1894. Et c'était le premier archevêque de Montréal. Mgr Fabre a manifesté très tôt dans ses tâches, un esprit vif, des dons d'orateur et de sang-froid. Sans auxiliaire, il a ordonné 210 prêtres de son diocèse et 820 autres de diocèses canadiens ou américains, tous formés au Grand Séminaire de Montréal. En période de crise économique, il est venu en aide d'abord aux paroisses pauvres, puis aux chômeurs en organisant une quête à travers le diocèse et en faisant avec le curé Labelle la promotion de la colonisation. En 1890, il obtient de Rome que l'Université de Montréal devienne quasi indépendante de l'Université Laval. Et ceux qui se souviennent de Un homme et son péché, d'ailleurs, il y avait une correspondance avec le curé Labelle et aussi Mgr Fabre. Édouard Charles Fabre, lui, est né à Montréal le 28 février 1827 dans une famille bien connue de l'époque. Parce que son père, Édouard Raymond, c'est un libraire éditeur prospère. Ensuite, c'est une personne qui est très patriote et il est intime de Louis-Joseph Papineau. Il va s'impliquer politiquement à la révolte de 1837-1838 et même il fut fait prisonnier puis s'est gracié en raison de la maladie de sa femme. Le calme revenu. Il manifesta une grande générosité à l'égard des victimes du conflit, particulièrement envers les exilés en Australie. 10 ans après les troubles, il sera maire de Montréal en 1847-1851 et l'épidémie de choléra l'emporta en 1854 à l'âge de 55 ans. Donc, c'était le père de Édouard Charles Fabre. Pour celui-ci, l'ordination, c'est premier ministère et autres charges. C'est celui-ci qui va conférer l'ordination sacerdotale le 23 janvier 1850. Il est alors nommé vicaire à Sorel et il va œuvrer pendant 2 ans, puis curé à Pointe-Claire pour une autre période de 2 ans. On le rappelle à l'archevêché à l'automne 1854. Un an plus tard, le 25 décembre 1855, il est installé chanoine titulaire de la cathédrale et il a seulement 28 ans. Et le 1er avril 1873, Rome le nomme évêque coadjuteur de Mgr Bourgette. Donc, c'est pour ça que je voulais continuer pour vous parler de Mgr Bourgette parce qu'on a le parc Ignace Bourgette, etc. chez nous, dans Villemort. Et il va devenir ça avec une succession. Il reçoit l'ordination épiscopale en l'église du Jésus des mains de Mgr Alexandre Taschereau, archevêque de Québec. Et l'église du Jésus, c'était sur la rue Bleury. C'est encore aujourd'hui sur la rue Bleury. Le 1er avril 1873, Rome le nomme évêque coadjuteur de Mgr Bourgette et future succession. La démission de Mgr Bourgette le 16 mai 1876, il devient le 3e évêque de Montréal. Il a 49 ans. 10 ans plus tard, le 8 juin 1886, Rome le nomme premier archevêque de Montréal avec, comme suffragant, les évêques de Saint-Hyacinthe et de Sherbrooke. Incidemment, c'est sous Monseigneur Fobbe que s'effectuera une troisième partition du diocèse par la création en 1892 du diocèse de Valleyfield au sud-est du territoire initial. Et pendant 20 années de son épiscopat comme évêque titulaire de Montréal, il n'aura pas d'auxiliaire. Il devra présider toutes les célébrations importantes. Il ordonna 210 prêtres, comme je disais tantôt, et aussi ajouté les 828 appartenant au diocèse canadien. Il va aussi accueillir dans son diocèse 10 communautés religieuses venues d'Europe. Il y avait les Petites Sœurs des Pauvres, les Trappistes, les Rédemptoristes, les Pères du Saint-Sacrement, les Franciscains, les Montfortins, les Frères Maristes, les Frères Saint-Gabriel, les Frères du Sacré-Cœur et les Frères de l'Instruction chrétienne. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment quelqu'un qui a œuvré, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous savons un peu ce qu'il y avait, ce qui était dans sa vie et ce qu'elle a passé comme disons, épreuve pour arriver avec tout le travail qui était dont il était en charge. À ce moment-là, lui, il est devenu, il est venu retraité et malade et il se ferait même enquêter un peu partout quand il y avait des organisations, tout ce que c'est que les fabriques ou la fabrique lui demandait ou il se sentait obligé. Donc, vous en savez maintenant un peu plus sur Monseigneur Fabre. Et Monseigneur Fabre, d'abord, il va veiller néanmoins à ce que l'Église de Montréal manifeste la plus grande générosité possible envers les chômeurs et leurs familles. C'était comme sa moto. C'était comme son œuvre grandiose. C'était ça. Où ce qu'il y tenait le plus. Et avec un de ses prêtres, le populaire curé Antoine Labelle, il va travailler après la promotion de la colonisation. La situation économique s'étant améliorée, mais les travaux de construction de la cathédrale Saint-Jacques, interrompus pendant 7 ans, peuvent reprendre en 1885 et seront achevés en 1894, soit 42 ans après l'incendie de la présente cathédrale érigée sous Monseigneur Bourget. Donc, c'était votre balado.